On va prendre un moment maintenant aussi pour ouvrir la Bible ensemble et chercher à comprendre ce qu'elle a à nous dire. Et c'est un privilège pour moi de le faire avec vous ce matin. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a plus de 10 ans, mais de l'autre côté, pour les plus anciens, vous vous rappelez que vous regardiez dans l'autre direction. Mais peu importe la direction, c'est mon privilège ce matin de le faire avec vous. C'est aujourd'hui, imaginez-vous la scène suivante. La finale de Roland-Garros. Qui a déjà été à Roland-Garros? Quelqu'un? Personne. Ah si, quand même, quelques-uns. Moi, j'ai jamais été, alors je sais pas comment c'est. Mais je m'imagine la scène, deux champions là tout en bas, parce que c'est très haut, vous savez, il faut avoir des bonnes jumelles parfois pour voir ce qui se passe tout en bas dans ces grands stades. Mais voilà que dans l'assistance, il y a toutes sortes de personnes. Et il y a aussi très souvent, vous savez, ces anciens champions de tennis qui ont déjà les cheveux gris, qui ne jouent plus au tennis depuis longtemps, qui ont été entraîneurs pendant longtemps. Et puis voilà qu'ils voient ces joueurs actuels en train d'évoluer devant eux. Quelle est la pensée qui traverse leur esprit? Eh bien, il y a peut-être ceux qui vont se dire « Ah, le tennis, c'était mieux avant quand même. De mon temps, c'était ça, le vrai tennis. Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus jouer. Aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Moi, de mon temps, c'était quand même beaucoup mieux. Et puis moi, j'aurais fait autrement là. Et puis ce coup droit là, il devrait vraiment le travailler parce que si moi, j'étais en bas là, je ferais sans doute mieux. » On connaît un peu ce genre de sentiment. Ce genre de pensée qui voit la génération suivante ou les générations suivantes d'un œil très critique. Ah, moi j'aurais fait mieux. Il y a dans la Bible, à un moment, une situation décrite un peu semblable. Alors c'est pas Roland-Garros, ça n'existait pas. Mais c'est un endroit où il y a des jeunes générations qui évoluent et tout autour, il y a les anciennes générations, ceux qui sont même partis, qui ne sont plus là, qui sont décédés. On les appelle les héros de la foi. Ces héros de la foi sont ceux qui, les siècles passés, ont vécu leur chemin de foi et qui, aujourd'hui, observent les jeunes générations, c'est-à-dire nous tous. Je nous fais plaisir à tous ce matin, vous faites tous partie de cette jeune génération que tous ceux qui ne sont plus là observent. Mais ces gens-là ne sont pas comme ces anciens champions de tennis sarcastiques et amers en disant « c'était mieux avant ». Au contraire, ces gens-là, dans la scène que décrit la Bible, sont là pour nous encourager. Et c'est tout différent quand on voit quelqu'un qui nous encourage. Plutôt que quelqu'un, on vit ça parfois, on sent qu'il n'est pas très content de ce qu'on fait. Et il y a comme ça un chapitre entier dans la Bible, c'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Dans tout ce chapitre, il y a plein de personnes qu'on appelle les héros de la foi. Alors vous en connaissez probablement plusieurs, Abraham, Moïse, etc., ces grands hommes de la Bible. Et juste après, on a ces quelques versets que j'aimerais lire avec vous bientôt, qui nous disent pourquoi ces héros de la Bible ils sont tous là. C'est justement pas pour nous écraser, pour nous faire nous sentir tout petits, mais c'est pour qu'on ne perde pas courage. Alors on va lire dans Hébreux, chapitre 12. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir. Sinon, vous pouvez simplement écouter Hébreux, chapitre 12. On va lire simplement les trois premiers versets. Hébreux 12, 1 à 3. Alors voilà comment ça commence. Par conséquent, puisque nous sommes entourés de tellement de témoins, courons avec persévérance l'épreuve qui est devant nous. En nous débarrassant de tout ce qui nous pèse, du péché qui se colle à nous si facilement, en détournant notre regard pour le fixer sur Jésus. C'est lui qui a fait naître en nous la foi et c'est lui qui la mènera jusqu'à son accomplissement. Ce Jésus, au lieu de la joie qui se présentait devant lui, il a supporté la croix. Il n'a pas tenu compte de la honte, mais il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, considérez celui qui a supporté tellement d'opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous écrouliez pas sous le découragement. Jusque-là, la parole de Dieu pour nous ce matin, pour que vous ne vous écrouliez pas sous le découragement. Et je crois qu'il y a là un thème qui nous touche probablement tous. Que l'on connaisse la Bible, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, ou que l'on ne le connaisse pas, nous connaissons tous ces périodes de découragement. On a envie de laisser tomber. Parfois, ça vient de ces autres personnes qui nous critiquent. Parfois, ça vient de nos propres sentiments, de nos propres pensées. Vous savez, chaque lundi matin, moi, j'ai décidé depuis plusieurs années déjà d'aller nager, faire un peu de la natation. Il faut bien, parce que sinon, aucun sport dans la vie, ce n'est pas très bon pour moi. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a une petite pensée, mais la toute petite, « Ah, il fait froid, ah, mon pot de shampoing est vide, ah, etc. » Eh bien, ça suffit à me décourager à y aller. Ah, il va falloir gratter sur la voiture. Et une toute petite pensée comme ça peut, tout à coup, me faire renoncer à une résolution que j'ai prise. Peut-être vous avez vous aussi pris des résolutions intéressantes en début d'année. On est maintenant dans le deuxième mois de l'année et vous faites peut-être partie de ces quelques pourcents de personnes qui tiennent encore leurs résolutions de la nouvelle année. Si vous en faites partie, vous êtes vraiment une minorité. Hein, parce qu'en général, les statistiques le prouvent, les résolutions, ça ne dure pas beaucoup. Le découragement, dans la vie de foi, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Nous pouvons nous laisser aller au découragement. Une personne dans l'église qui me critique. Des réponses à la prière qui ne viennent pas tout de suite. Une situation difficile de laquelle je n'arrive pas à sortir. Un Dieu que je ne connais pas bien ou qui est absent. Et je me décourage. Et je laisse tomber. Nous avons dans le texte de Hébreux 12, 1 à 3, trois recettes, trois verbes qui nous aident justement à ne pas nous écrouler sous le découragement. C'est la fin du verset 3 que nous avons lu. Voilà pourquoi Jésus est là, pourquoi tous ces témoins sont là, c'est pour que vous ne vous écrouliez pas sous le découragement. Et chers amis, c'est ma prière pour nous tous ce matin, que nous ne nous écroulions pas sous le découragement. Ces trois verbes que nous trouvons dans ce texte, verset 1, courez. Il s'agit de courir. Verset 1 toujours, il s'agit de se débarrasser. Et troisième verbe, détourner notre regard ou fixer notre regard, le changer de direction. Courir, se débarrasser et fixer notre regard. Et je vais les prendre dans un ordre légèrement inversé. Je vais commencer par le deuxième. Le deuxième, c'est se débarrasser. Parce que avant de courir, vous le savez tous, que vous fassiez de la course à pied ou pas, vous savez tous que quand on veut courir et aller vite, il faut se débarrasser de ce qui nous gêne. Personne ne peut gagner le Tour de France avec un vélo qui pèse 14 kilos. Personne ne peut gagner une course avec un sac à dos rempli de cailloux. L'image est toute simple et pourtant tellement utile. Nous devons nous débarrasser, voilà le texte est projeté, de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Il faut se débarrasser de ce qui nous gêne avant de pouvoir courir. Et qu'est-ce qui nous gêne ? Regardez-le dans ce verset. Il y a deux choses qui nous gênent. C'est quoi la première ? Les fardeaux. Qu'est-ce que c'est les fardeaux ? C'est tout ce qui pèse dans nos vies, qui est pesant. C'est tout ce qui est lourd pour nous. Et si on faisait un tour de table maintenant dans cette salle, tout le monde aurait quelque chose de lourd à dire dans sa vie, n'est-ce pas ? On a tous des choses qui sont tellement lourdes et parfois on ne les voit pas nous-mêmes. On a besoin des autres qui nous disent « mais Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose que tu devrais déposer, qui est trop lourd à porter pour toi ? On n'est parfois pas très bien renseigné, c'est pour ça que dans le domaine des fardeaux, il faut faire appel à la CIA. Vous connaissez la CIA ? Cette agence de renseignement qu'on voit dans beaucoup de films. Eh bien, la CIA, comme pour nous renseigner sur notre propre fardeau. La CIA pour, d'abord le C. Le C, parmi tout ce qui nous pèse, il y a la culpabilité. Qu'est-ce que c'est la culpabilité ? Vivre avec des regrets du passé. Vivre avec ce qu'on a mal fait. Vous vivez peut-être ce matin avec des regrets terribles qui vous empêchent de dormir. Vous vivez ce matin peut-être avec des regrets de choses que vous n'avez pas faites et que vous auriez dû faire au bon moment. Des choses que vous avez faites et que vous n'auriez pas dû faire. La culpabilité. Voilà un fardeau terrible qui nous empêche de courir. Et quand je vois, quand je rencontre des gens qui disent « Mais je ne peux pas me séparer de cette culpabilité-là, c'est trop dur pour moi. » Eh bien, ça les gêne dans la course. Ça les ralentit terriblement. Ça, c'est le C. Après, il y a le I. Le I de la CIA, c'est les inquiétudes. Tout ce qui nous inquiète. Pensez à la somme de choses qui vous inquiètent jour après jour. Est-ce que ça non plus, ça ne nous ralentit pas ? Moi, ça me ralentit terriblement. La Bible nous dit, Jésus lui-même a dit, mais personne d'entre nous, ni vous ni moi, on peut changer quelque chose à nos vies en s'inquiétant. Ça ne change rien dans nos vies. Mais au contraire, ça nous ralentit. Nous inquiéter de quoi demain sera fait. Nous inquiéter de tellement de choses pour nos enfants, pour notre famille, pour ceci et cela. Les inquiétudes font partie de ce fardeau qui nous gêne et duquel nous devons nous débarrasser. La CIA. Il y a encore le A, mais vous allez rire, je ne m'en souviens plus. Ça va me revenir tout à l'heure. Mais dans tout ce qui nous pèse, il y a vraiment des choses dont desquelles il nous faut nous débarrasser, n'est-ce pas ? Débarrassons-nous de tout fardeau. Mais il n'y a pas seulement ça dont il faut nous débarrasser. Il y a cette deuxième chose dans le verset, c'est le péché. Et le péché, c'est tout ce que nous faisons. Parce que les fardeaux, bien souvent, c'est les autres qui nous les mettent sur nous. Mais le péché, c'est nous. C'est tout ce que la Bible appelle mal, conduite sans Dieu, mes propres idées, ma propre direction, vouloir vivre sans tenir compte de ce que Dieu me dit et faire mes propres choix. Tout ça, en fait, tout simplement, c'est le péché. Et il y a dans ce texte cette expression qui nous cerne si facilement de tous côtés. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait ce que le texte veut vraiment dire parce que c'est encore plus fort comme image. Si on pense simplement que le péché nous environne, comme le traduisait une vieille traduction de la Bible, ce n'est pas simplement le péché qui nous environne partout. Et puis nous, on est, vous savez, on est la personne pure au milieu de ce monde qui va mal. On a parfois cette idée, nous autres chrétiens. Le péché nous environne, il est partout. Et nous, nous tenons ferme là au milieu comme une petite île au milieu de l'océan agité. Mais le texte va plus loin que ça. Ce n'est pas simplement le mal qui nous environne, c'est le mal qui nous colle à la peau, à nous. Et nous faisons partie du problème du mal. Ce n'est pas seulement les autres, le péché. Et c'est aussi notre mal, notre conduite, nos mauvais choix qui nous ralentissent dans la course. Alors oui, il s'agit de nous débarrasser de tout fardeau. C'était le premier verbe. Pour que nous puissions, deuxième verbe, courir. Courir. On sait bien que pour courir vite, il faut se débarrasser de tout ce qu'il faut, de tout ce qui nous gêne. Et alors, on peut aller vite. Le nageur, qu'est-ce qu'il va faire pour aller le plus vite possible ? Il va même s'épiler le corps entier pour pouvoir glisser le plus possible dans l'eau. Courir l'épreuve qui est devant nous. C'est parfois difficile de courir quand on n'a plus de force, quand on est justement découragé. Mais il s'agit de courir, et il y a un mot ici qui est là, l'épreuve qui est devant nous. Le texte et la traduction qui est là, c'est « débarrassons-nous et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée ». C'est le même mot que le combat que notre frère tout à l'heure a repéré dans l'autre verset, « combat le bon, combat de la foi ». C'est le même mot ici. Courons ce qui est exigeant. Oui, la vie est exigeante. La vie chrétienne est exigeante, mais pas seulement. Et nous tous ici, nous le savons. La vie est exigeante, elle mérite de la persévérance. Mais la parole de Dieu nous dit, mais courez, allez-y, c'est votre chemin, même si c'est difficile. Nous sommes en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio. En attendant les prochains JO, voilà une illustration des derniers. C'est la demi-finale du 5000 mètres féminin. Les coureuses sont là, vous savez, au bout d'un moment, dans les 5000 mètres, eh bien, chacune part sur son couloir et au bout d'un moment, tout le monde revient au centre de l'anneau parce que les distances sont un peu plus courtes. Et donc, quand on est proche les unes des autres comme ça, il y a souvent des chutes. Et c'est ce qui s'est passé lors de cette demi-finale. Une Néo-Zélandaise a perdu l'équilibre, est tombée par terre. Dans sa chute, elle a même entraîné une Américaine. Deux coureuses qui avaient travaillé des années jusqu'à ce jour-là et qui tout à coup se retrouvent par terre. Comment continuer à courir quand on est par terre? Quand on sait que c'est terminé, la finale, elle n'est plus pour nous. Elle nous a échappé. Comment vivre même avec la culpabilité pour la première coureuse d'avoir fait tomber la deuxième? Voilà que les deux coureuses se relèvent. Une va aider l'autre à se relever qui est plus sérieusement blessée que la première. Et qu'elles vont terminer la course. Vous savez, 5000 mètres, c'est encore long. Je ne me souviens plus exactement du moment où c'est arrivé pendant les 5000 mètres, mais relativement au début. Elles vont terminer la course. Bien sûr, elles savaient très bien qu'elles n'y arriveraient pas à être qualifiées en finale, c'était évident. Mais elles ont terminé la course. Ce qui les a motivées, c'était finir ce qu'on a commencé. C'était aller jusqu'au bout. Le jury des Jeux Olympiques leur a accordé une place en finale pour la beauté de leur geste. Au final, elles ont été qualifiées. L'une d'entre elles n'a pas pu la courir parce qu'elle était trop blessée et l'autre l'a couru quand même. Et ce geste a été qualifié de plus beau geste sportif des Jeux Olympiques de 2016. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Ça me dit que même quand on est à terre, même quand tout semble perdu, il y a toujours une raison de se relever. Et cette raison, c'est de courir la course qui est devant vous dans une direction précise. Courir la course qui est devant vous et pas courir la course de quelqu'un d'autre. Dans ce texte, il a marqué l'épreuve qui est devant vous et pas devant toi. Des fois, on aimerait courir l'épreuve à la place des autres. Hey, tu devrais aller, vas-y, dépêche-toi, lève-toi, mets-toi en mouvement. L'épreuve qui nous est proposée, à nous, voilà ce à quoi Dieu nous appelle, vous appelle, t'appelle ce matin. Cours ce chemin que Dieu trace devant toi. Se débarrasser et courir. Mais vers où courir? C'est notre dernier point. Le verset suivant, verset 2, nous dit vers qui nous devons tourner notre regard. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Le verbe qui est là est même encore un peu plus précis. Il dit « détournez votre regard pour le tourner vers Jésus ». C'est comme si là, tout à coup, un grand avion passait à côté là et on se fait tous distraire et hop, on regarde tous là-bas. La direction du regard change parce que nous connaissons Jésus. Je ne sais pas si vous aimez les manèges à Europa Park. Quand j'en fais un pour la première fois, alors bon, vous savez, les années passent, donc c'est de plus en plus les enfants qui me poussent maintenant. Mais quand j'en fais un pour la première fois, eh ben, je ne sais jamais ce qui m'attend. Une montée, un virage à droite, et puis tout à coup, ça redescend, on est en arrière, en avant. Et ce n'est pas très agréable. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. Après, il s'agit de le refaire. Et si on le refaisait? Et là, moi, je suis en général partant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est que je connais. Je sais comment ça va après. Je sais qu'après cette grande montée, eh bien, ouais, la descente, elle n'est pas si longue que ça. Et puis, ça va tourner à gauche. Et après, bon, je sais que là, il faut que je me prépare parce qu'il va y avoir les grands frissons. Mais je sais où je vais. Et ça change tout. Quand on ne sait pas où on va, chers amis, eh bien, on est bien malheureux. Mais quand on sait vers qui regarder, alors c'est beaucoup plus facile. La vie se déroule devant nous parce qu'on regarde Jésus. Il a fait naître en nous la foi, ou dans la traduction qui est sous vos yeux, il a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui peut vous amener à la foi. Peut-être ce matin, vous dites, mais moi je ne connais pas Jésus, j'ai aucune idée de qui il est. Eh bien, Jésus est celui dont on parle ici, peut donner une direction à votre vie et faire naître en vous une foi que vous n'aviez jamais soupçonnée, une confiance en lui. Dire, mais oui, Jésus, moi j'aimerais bien que tu puisses venir dans mon cœur parce que j'aimerais découvrir cette foi et c'est toi qui me la donnes. Voilà la direction de ce vers lequel nous regardons, Jésus qui fait naître en nous la foi, mais qui la porte à la perfection. Et j'aime aussi ce verset, parce qu'il nous dit que notre foi, elle progresse. Notre foi, ce n'est pas simplement un petit truc, un petit gadget que Dieu nous donne, mais c'est quelque chose qui nous aide à atteindre une destination. Si vous observez dans votre vie, allez, il y a 3 ans, si vous êtes chrétien, depuis 3 ans, est-ce que votre foi a fait des progrès? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire oui. Peut-être certains en diraient non. Mais si vous pouvez dire oui aujourd'hui, c'est parce que Jésus fait grandir la foi en vous, tout simplement. Un autre verset dans l'Épître aux Philippiens nous dit cela très bien. Eh bien, Jésus-Christ rendra votre foi parfaite au jour où il reviendra. Autrement dit, votre foi, elle grandit. Et ça, ça ne vient pas de nous. La persévérance elle-même, elle vient de ce qu'on fixe le bon objectif vers Jésus. Et puis, les quelques mots qui restent dans ce texte nous parlent de ce Jésus. Regardez-le. Il pouvait vivre la plus grande joie de la terre, mais au lieu de ça, il a enduré la croix. Il n'a pas tenu compte de la honte. Il l'a méprisée parce qu'il avait en vue d'être assis à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ comme exemple suprême de celui qui a continué malgré toutes les difficultés. Et c'est vers lui que nous devons tourner notre regard. Chers amis, si vous cherchez une direction à votre vie, choisissez la bonne. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin, et je reviens à l'ouverture de ce message, nous avons besoin des autres. Des héros de la foi, de ceux qui ont fait des choses incroyables, parce qu'ils nous donnent de beaux exemples. Peut-être vous avez déjà lu des biographies de grands hommes de Dieu, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. On en trouve dans la Bible, mais on en trouve aussi dans toutes sortes de littérature. Des gens qui ont fait des choses incroyables. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, je suis un peu partagé des fois. Des fois, ça m'encourage parce que je me dis « Waouh, mais c'était vraiment des gens extraordinaires. » Mais des fois, ça me pèse quand même beaucoup en me disant « Mais moi, je n'arrive pas à faire tout ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas autant de persévérance, de foi, de force. Comment je fais, moi ?» Et c'est pour ça qu'on a besoin non seulement des héros de la foi, mais on a besoin aussi des autres, des frères et sœurs dans l'Église, qui sont aussi vos héros de la foi. Si vous regardez votre voisin, vous y voyez un héros de la foi. Tu m'encourages. Oui, c'est beaucoup plus accessible hein, quand on regarde à côté, plutôt que regarder un Abraham, un Moïse ou un je sais pas qui, un George Muller ou un etc. Des grands, des personnes inatteignables. On a besoin les uns des autres. Vous avez dans votre communauté aussi plusieurs choses qui vous permettent de grandir les uns avec les autres. Parce que quand j'apprends comment quelqu'un va persévérer dans l'épreuve, dans le groupe de maison, dans telle et telle rencontre, ça va m'encourager, n'est-ce pas ? Je suis terriblement encouragé de voir comment d'autres, à ma portée, peuvent courir l'épreuve qui est devant eux, peuvent parfois montrer comment ils se débarrassent de ce qui les gêne et comment ils fixent leur regard sur Jésus. Ça m'encourage. On a besoin des héros de la foi, mais on a besoin des petits héros que nous sommes tous. Parce que Jésus fait naître cette foi en nous et la fait grandir. Et nous avons par-dessus tout besoin de Jésus. Est-ce que tu voudrais projeter le verset 3 pour terminer, s'il te plaît ? Il s'agit de considérer, de penser à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Voilà la clé, mes chers amis. Halte au découragement, car nous connaissons celui qui a tellement enduré qu'à côté de lui, eh bien, je peux continuer avec sa force. Parce que lui a vécu tellement pour moi, je peux me laisser conduire par lui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier quelques instants encore ensemble, Seigneur ? Jésus-Christ, c'est à toi que nous nous adressons maintenant. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle qui nous conduisent vers le Père. Seigneur, tant de fois nous marchons selon notre propre direction et nous peinons dans la course. Nous souffrons tellement de tout ce que nous transportons dans notre sac à dos. Nous souffrons tellement de tout ce qui nous pèse, du péché qui se colle à nous si facilement. J'aimerais te prier pour tous ceux d'entre nous ce matin qui sommes découragés ou tentés par le découragement de tout laisser tomber. Seigneur, soutiens ces personnes. Apprends-nous à nous décharger sur toi. Car toi, tu es venu pour porter nos souffrances, nos maladies, nos épreuves. Tu es venu pour les porter et bien souvent nous fatiguons à les porter nous-mêmes. Tu nous invites ce matin à nous débarrasser de ce qui nous pèse et du péché. Je te prie pour ceux qui ont du mal à avancer parce qu'ils manquent de force, parce qu'ils manquent de persévérance. Aide-nous, Seigneur, à courir avec les forces que tu nous donnes, cette épreuve qui est devant nous. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui cherchent une direction à leur vie. Que tu puisses nous montrer la direction, nous montrer la bonne direction qui nous mène vers le Père et à vivre de son amour. Je te prie, Seigneur, pour toute cette communauté ici à Mulhouse, que tu connais, que tu aimes. Fais-les grandir, Seigneur, les uns avec les autres, qu'ensemble, ils puissent remarquer que tu es celui qui fait grandir leur foi et qui l'amène à la perfection. Merci Seigneur Jésus pour tout ton amour et tes grâces. Sois béni au milieu de nous. Amen.